La marche du monde.
Il y a un général français à Londres qui a fait un discours incroyable.
Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle.
À vos rangs, fixe !
Daniel Cordier.
François Briand.
Qu'est-ce qu'un prêtre vient faire ici ?
Je vais me battre contre les Boches.
Aspirant Cordier, j'ai rendez-vous avec le colonel Passy.
La guerre clandestine que nous conduisons en métropole n'est pas celle pour laquelle vous avez été préparé. Elle se vit seule. Au front 24 heures sur 24. Si vous êtes arrêté, vous serez entre les mains de la Gestapo. Interrogé et torturé pour obtenir des renseignements. On vous fournira une capsule de cyanure.
Bonne chance, Cordier.
Merci, mon capitaine.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Daniel Cordier a 20 ans lorsqu'il s'engage aux côtés de la France libre et du général de Gaulle. Il a aujourd'hui 94 ans. Daniel Cordier est le grand témoin des rendez-vous de l'histoire de Blois et il se raconte en avant-première dans la marche du monde sur RFI.
Il y a un phénomène de la jeunesse. Quand j'étais parachuté, les premiers jours, on était enfermés, on nous cachait, c'était des gens qui nous recevaient, et nous avions très peur. Quand je suis allé dans la rue, j'étais pour acheter le guide de Lyon, j'ai eu très très peur. Je me disais, mais comment se fait-il que je peux marcher dans la rue, que j'achète ce plan de Lyon, et que je ne suis pas arrêté? Parce que tout le monde doit voir que je viens de Londres, je viens de l'extérieur. Bon, ça a duré une quinzaine de jours. J'avais 21 ans, j'étais très, 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 très occupé. Et au bout d'une quinzaine de jours, je n'avais plus peur du tout. D'où des imprudences folles. À Londres, on nous disait, quand on préparait notre mission, vous pouvez rencontrer une ou deux personnes par jour, mais pas plus. Faites très attention, regardez que vous n'êtes pas suivi. Mais au fond, c'est par période. C'est-à-dire que tout d'un coup, lorsque l'on arrivait devant une porte où on pensait que peut-être la gendarmerie ou la Gestapo après était derrière la porte, on ne sonnait pas et on s'enfuyait. Ça, il faut être fou parce que la Gestapo était effectivement derrière la porte. Mais ça, c'est arrivé quelquefois.
Daniel Cordier, vous partez, vous êtes parachuté le 27 juillet 1942.
Oui, c'était la deuxième fois. Parce que malheureusement, un mois auparavant, nous sommes partis la nuit, c'était allumé, tout allait très bien et tout. Tout s'éteint. Et alors l'avion commence à plonger, à se redresser, à virer à droite, à virer à gauche, etc. Et là, je me suis dit, c'est quand même terrible. Je vais crever au moment où je vais aller me battre. Et puis, tout d'un coup, on est sorti de là. On a rallumé. Je croyais au bon Dieu. Et j'avais dit, si jamais je sors de là, j'irai à Lourdes à pied.
Vous l'avez fait ?
Non. Parce que je ne croyais plus après la guerre.
Daniel Cordier, vous avez réchappé à ces tirs anti-aériens. Et donc, vous êtes retourné pour être parachuté. Une deuxième fois. Est-ce que là, cette fois, vous vous êtes un peu mieux rendu compte du danger de cette mission ?
Non.
Toujours pas.
Non. On était trop jeunes. Aujourd'hui, les garçons, les filles qui ont 17 ans, 18 ans, d'abord, ils sont plus grands, ce sont déjà presque des hommes, des femmes, et dans leur tête, ils sont mûrs. Nous étions des enfants.
Avec le recul, finalement, est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'époque, vous étiez un enfant qui jouait à la guerre, qui jouait aux soldats?
Alors, on ne jouait pas, mais on était des enfants. Je ne connaissais rien du monde. J'avais été pensionnaire toute ma jeunesse. On était des enfants.
Tout s'est bien passé ?
Oui, je suis content de te voir.
Moi aussi. Je vais vite te rendre compte que tous les résistants ont un rendez-vous ici.
Il suffirait d'une descente de police pour les arrêter tous, alors.
Ah ouais. À force on oublie le danger, on prend des risques inconsidérés. Viens, on y va, Rex nous attend.
La première personne que l'on rencontrait quand on en arrivait de Londres, c'était Rex. Parce que c'était le patron de tout le personnel qui était envoyé de Londres et qui était à ses ordres. Et il pouvait faire tout ce qu'il voulait et nous renvoyer à Londres.
Donc Rex, Jean Moulin, est le représentant de Charles de Gaulle du général en France.
Voilà. C'était lui le patron. Donc on me présente au patron. On m'avait donné tout un courrier et on m'avait donné 10 millions en billets. Sous mes chemises, je donne le courrier et l'argent à Moulin. Et il était penché sur une chaise où il y avait des documents. Et quand nous sommes rentrés avec Schmitt, mon copain de Londres, qui était le représentant de Libération, Moulin a tourné la tête, il s'est levé, très souriant, il a serré la main de Schmitt, et puis il est venu vers moi. Est-ce que vous avez fait bon voyage ? J'étais stupéfait, parce qu'il était très bronzé. Il paraissait très jeune, il était beau et très jeune. Je ne savais pas quoi lui répondre, parce que je ne savais pas si, même en civil, il fallait que je me mette au garde-à-vous devant lui. Ça me troublait, et j'entends tout d'un coup qu'il m'avait à dîner.
Vous êtes libre à dîner ce soir ?
Oui.
Rejoignez-moi à 7h au Garé, c'est un restaurant près de l'Opéra.
Dans la formation que nous avons eue, on a dit quoi qu'il arrive, là où vous partez, quoi que vous fassiez, ne vous interrogez pas sur ce que vous dites. Vous faites ce que l'on vous demande, vous obéissez aux ordres. Il m'avait dit, on va dîner ensemble. Bon, ça me paraissait curieux, mais enfin, personne ne m'avait rien dit, parce que la première chose, quand vous rentrez dans un service secret, tout est secret. Donc, vous ne dites rien. À personne, à votre meilleur ami, rien.
Daniel Cordier, donc vous finissez par aller à votre rendez-vous, et à 7h05, vous êtes le premier au restaurant pour ce dîner avec Rex.
J'ouvre la porte, c'était un tout petit bistrot, et il y avait une table qui était toute seule, qui était isolée, et je me suis dit, je vais me mettre là, parce que si jamais la Gestapo arrive, comme ils rentrent et ils vont tout de suite au fond, on se lèvera et on partira. Parce que ça, c'était tout ce que l'on nous avait appris. Donc je m'assieds sur la banquette et quelques minutes après, Moulin ouvre la porte.
Donc Moulin arrive.
Et il n'y avait personne dans le bistrot. On était tout seul. Et Moulin me dit...
Bonsoir. Soyez gentil de changer de place.
Soyez gentil, asseyez-vous. Là, et je mets sur la banquette. Parce que c'est lui qui voulait voir...
Saucisse lentille, ça vous va ?
Oui, très bien.
Michel ?
Oui ?
Deux saucisses lentilles, s'il vous plaît.
Bien, monsieur.
Vous voulez du vin ?
Non, merci, je ne bois jamais de vin. Un Perrier, ce sera très bien.
Il ne faut jamais boire d'eau pétillante en mangeant, c'est mauvais pour l'estomac.
Pendant ce dîner, donc, ce sont vos premiers échanges avec Jean Moulin. Est-ce que déjà, à ce moment-là, il vous propose de travailler pour lui directement?
Alors non, il fait raconter ma vie.
Il y a longtemps que vous étiez à Londres?
Je parle de l'action française, contre les juifs, etc. Enfin,
oui, parce qu'à l'époque, vous avez des idées antisémites, vous êtes pour l'action française.
Ah ouais, non, je lui raconte pourquoi j'ai voulu venir en France pour tuer du Bosch. Le bon Bosch, il a un petit sourire. Il me regarde. Moi, je pensais que il était très sympathisant à l'action française, parce qu'il posait des questions, il voulait savoir sur Morin, sur le club, sur comment ça se passait, comment on vendait les journaux et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il est des nôtres. Et il me dit, vous m'avez beaucoup intéressé avec le récit de votre jeunesse, mais ma jeunesse a été merveilleuse, parce que mon père était radical socialiste et qu'il m'a donné la foi dans les radicaux. Sidéré.
Vous attendiez à tout, sauf à ça.
Mais non, sidéré, parce que je crois que qu'il était Action française, royaliste, etc. Je suis fou.
Moi aussi, j'ai une jeunesse très heureuse. La différence avec vous, c'est que j'ai eu une enfance républicaine. Mon père s'est toujours battu pour la République et contre la tyrannie.
Il me raconte son enfance, et sans jamais donner de nom, où il était né, où il vivait, mais je savais que c'était au bord de la mer, dans le sud.
Donc Jean Moulin vous raconte son itinéraire, son enfance, mais sans vous donner d'indication qui vous permettrait d'identifier, bien
absolument.
Entendu.
C'est un moment extraordinaire. L'abandon, la confiance, enfin, ben évidemment, j'avais eu confiance, mais enfin, c'était mon devoir de lui dire qui il était, etc. Lui, il n'avait rien à me dire. Et ça, c'est très, très curieux. Quand ça a été fini, il m'a dit, mais quand vous étiez à Londres, alors comment vous êtes rentré au Bécéran? Et qui connaissez-vous au Bécéran? Ben, j'ai rencontré le capitaine Passy. Je voulais lui montrer que quand même je connaissais des gens très importants qui étaient des amis. Il y a quelqu'un que j'ai bien connu à Londres, c'est en dernier que je lui dis ça, c'est Raymond Aron. Ce qui est très triste, c'est qu'il est devenu anti-gaulliste. Et il m'a dit, mais tout le monde est libre de ses opinions. Et chacun pense ce qu'il veut.
Ça, c'est extrêmement fascinant. Est-ce qu'il le pensait, ce qu'il disait?
Oui. Et il le faisait. Il n'y a aucun doute.
En avant-première des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui se dérouleront du 9 au 12 octobre, Daniel Cordier témoigne dans la marche du monde.
Il était 10h, 10h30, où il a demandé l'addition, et il a dit, raccompagnez-moi chez moi. Nous avions traversé tout Lyon, mais en suivant le Rhône. Il s'est arrêté, et il m'a dit, regardez bien le numéro où j'habite, regardez la plaque, la rue, et vous viendrez demain matin à 7h, je vous garde comme secrétaire.
Venez chez moi demain matin à 7h, je vous garde avec moi, vous serez mon secrétaire. Vous sonnerez 3 fois. Bonsoir.
Il m'a serré la main, bonsoir. Il est rentré, il a claqué la porte. J'étais hébété, parce que c'est effrayant. Il est charmant, il est très gentil et tout, mais j'ai rien à faire avec lui.
Voilà, tout vous opposez au niveau des idées.
Bon, j'ai regardé effectivement le numéro, j'ai regardé la plaque de la rue, je suis retourné le long des quais, j'arrive, il devait être minuit et passé.
Quelle heure?
Minuit.
T'étais où?
Avec Rex. On a parlé toute la soirée.
Alors il est comment?
Il est extraordinaire. On est d'accord sur rien, mais il est extraordinaire.
Et lorsque vous retrouvez votre ami Brion, avec qui vous partagez cette chambre chez ces Français qui vous hébergent, j'imagine qu'il vous demande comment
et
ça s'est passé.
Je vous dis, justement, ça s'est pas bien passé. Ah bon? Il veut que je sois son secrétaire. C'est très bien. Mais comment c'est très bien? Je suis le secrétaire de Bip. Il a baillé. Il a dit, oh, t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Et puis il s'est rendormi. Il n'est pas dormi de la nuit. Et alors, à force de réfléchir, je savais ce que je voulais lui dire.
J'ai réfléchi toute la nuit à votre proposition, que je trouve passionnante. Mais je ne peux pas accepter.
Daniel Cordier, le lendemain, lorsque vous retournez donc voir Jean Moulin, comme il vous l'avait demandé, Vous imaginiez quand même exprimer votre désaccord?
Ah, tout à fait. Ah, mais c'est la raison de mon insomnie. J'en avais beaucoup réfléchi. Mais j'étais décidé à lui dire que j'étais le secrétaire de Bidot et que... Enfin, de Bip. Je connaissais le nom de Bidot. C'est le seul nom, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelqu'un à Londres qui m'a dit « Ben, tu as de la chance, tu seras le secrétaire de Bidot. » C'était Bip. Et je sonne, toujours souriant. Il me fait rentrer dans sa chambre, il me fait asseoir dans le fauteuil, et lui s'assied entre les deux fenêtres. Il y avait une petite table, et il y avait les documents que j'avais apportés qui étaient là, il était en train de tout lire. Et il me dit « Ben, j'espère que vous avez bien dormi. » Ça, c'était la chance de ma vie. Je lui ai dit, écoutez, malheureusement, non. Oh, mais il y avait du bruit. Alors, pas du tout. Mais comment? C'est à cause de ce que vous m'avez dit hier soir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit que vous vouliez que je sois votre secrétaire, mais Londres m'a donné une mission que je dois accomplir. Je suis le secrétaire de Georges Bidot. Je dois lui remettre tous ses papiers, tout ça.
J'ai été envoyé par le BCRA pour travailler sous les ordres de Bidot.
Vous voulez pas travailler avec moi?
Ce n'est pas ça, j'aimerais beaucoup. Mais vis-à-vis du BCRA, je ne peux pas accepter, sous peine de sanction.
Ah, mais si c'est ça, j'en fais mon affaire. Je préviendrai Londres, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous.
C'était pas du tout l'homme de la veille. Dans le ton, dans sa manière d'être, c'était le patron.
Daniel Cordier, voilà. Le premier dîner avait été un moment de presque d'intimité d'homme à homme, et dès le lendemain, c'est le patron, c'est le chef de la résistance, c'est le représentant de De Gaulle en France qui vous intime de faire votre travail.
Ah oui, d'ailleurs à partir de ce moment-là...
Zéro discussion.
Je suis écrasé. Et le soir, quand je lui ai rapporté le déchiffrement des courriers qu'il m'a dit, mais... Est-ce que vous avez choisi votre pseudo?
Alors, vous avez choisi un pseudonyme?
Alain.
Je peux vous demander pourquoi?
En souvenir d'un ami qui m'a fait aimer le philosophe et ses propos sur le bonheur.
Les propos sur le bonheur d'Alain, c'est le dernier livre que j'étais en train de lire quand j'ai quitté ma chambre. Je ne suis jamais revenu à Bethcat. Et c'était un livre que j'ai annoté à moitié, que je possède encore. Il était ouvert, c'est ma chambre. Mes parents avaient gardé ma chambre telle que.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Niblon.
Daniel Cordier, alias Alain, raconte son travail quotidien dans la résistance française aux côtés de Jean Moulin, alias Rex.
C'est vous qui serez responsable des fonds versés par Londres et qui les distribuerez au mouvement. Bien entendu, vous tiendrez une comptabilité précise. Vous devrez aussi organiser et maintenir les contacts avec les responsables des mouvements, les officiers liaisons et les opérateurs radio. La correspondance s'effectuera par l'intermédiaire des boîtes aux lettres. Il faudra que vous trouviez rapidement une boîte pour ne pas surcharger la mienne. Il vous faudra une dactylo, il vous faudra aussi un courrier, quoi d'autre? Oui, vous toucherez 1200 francs par mois.
Moulin m'a expliqué que tous les matins, je viendrai chez lui à 7h, que je lui apporte tout le courrier ouvert, en classant les choses les plus urgentes, les télégrammes, les choses auxquelles il faut répondre tout de suite et tout ça, et que nous travaillerions dans sa chambre le temps nécessaire. Le début de la journée se passe comme ça. Et après, lui répond et il m'explique ce qu'est la correspondance dans la résistance. Ce sont des petits bouts de papier. On griffonne dessus. Je vous attends demain à tel endroit, à telle heure. Il m'a dit, il faut absolument que vous ayez un rendez-vous de repêchage. Parce que il faut absolument que vous ayez le contact avec l'ensemble de la résistance que vous allez connaître, ce sont tous les chefs, tous les états-majors, tous les dirigeants, c'est-à-dire à peu près une centaine de personnes dans la zone occupée, dans la zone libre. Mes oreilles se décollaient pendant qu'il était en train d'entendre ça.
Bon, moi je crois vous avoir tout dit. En tout cas pour commencer. Voici mon code. Prends pitié de la fille mère, du petit au bord du chemin. Vous verrez, c'est du Tristan Corbière. Et retenez ma clé. 1, 6, 4, 3, 8. Revenez ce soir pour me remettre ces documents que vous aurez déchiffrés.
À la fin de cette très longue conversation avec Jean Moulin, je lui ai dit, sur un ton un peu craintif, je lui ai dit, mais quand est-ce que vous me présentez les autres personnes de votre secrétariat? Il m'a regardé comme si j'étais un fou. Mais mon secrétaire, c'est vous. Oui, mais les autres. Mais il m'a dit, je n'ai jamais eu de secrétaire, vous êtes le premier. Je me suis dit, il est fou, je ne sais pas.
Daniel Cordier, d'abord un grand merci de nous avoir accueillis ici à Cannes dans votre appartement, au milieu de vos objets d'art. Et j'aimerais que l'on conclue cette histoire de votre engagement aux côtés de Jean Moulin avec une phrase de Jean Moulin qui est une des dernières phrases que Jean Moulin vous a dites en vous offrant ce magnifique livre d'histoire sur l'art contemporain. Et vous êtes devenu un grand collectionneur d'art, c'est devenu votre métier, votre passion. Jean Moulin vous a dit...
Ce sont ces œuvres qui témoignent de notre culture. C'est en regardant Braque, Kandinsky, Picasso, Mondrian, Matisse et tous leurs collègues que vous pourrez comprendre votre époque. Il n'y a pas qu'en politique que la révolution change la vie des hommes.
Oui.
Il avait raison.
Bien sûr. Bien sûr. L'art a changé ma vie, mais... Le jour où Jean Moulin a été attaqué sur Antenne 2, en 1977, il y avait un livre qui était paru d'Henri Frédet sur Jean Moulin. Et c'est la première fois depuis la guerre que je me suis retrouvé avec une quinzaine de chefs, dont Frédet, qui se trouvait exactement en face de moi. Et cette réunion qui était très calme, ça a explosé. Je n'avais lu aucun de ces livres, aucun des livres des mémoires de tous les chefs, les anciens chefs de résistance et tout ça. La résistance et la France libre, pour moi, ça n'existait pas. Je n'avais pas lu les mémoires du général de Gaulle. Et évidemment, quand Frédet m'a pointé du doigt et m'a dit de toutes les manières, vous ne savez rien parce que vous n'étiez que le petit secrétaire de Jean Moulin. Effectivement, je ne savais rien.
Et ça a déclenché chez vous l'envie, finalement, d'enquêter sur votre propre vie, Daniel Cordier.
Oui, je suis rentré déchiré par cette phrase de Frédet et je me rendais compte que la résistance avait continué sans moi. Parce qu'il n'y avait plus que des souvenirs, que des arrangements où chacun fabriquait un passé qui lui convenait, qui convenait à sa famille, qui convenait surtout à la postérité. Et Jean Moulin n'avait rien, parce que personne qui travaillait avec Jean Moulin n'avait expliqué ce qu'il avait fait, qui il était et tout ça. Et il y avait le portrait de Moulin que vous voyez ici, qui était sur mon bureau. C'est toujours le même. C'est sa sœur qui m'a donné cette photo. J'ai pris cette photo. Je me suis dit, mais est-ce qu'il est vraiment l'homme que je crois? Et c'était une seconde. Maintenant, je veux savoir. Et j'ai commencé mon travail, que je continue encore aujourd'hui, avec des livres sur Jean Moulin, avec les recherches d'archives, et ainsi de suite.
Ça,
Je vous remercie beaucoup, Daniel Cordier, d'avoir accepté de vous raconter, de nous raconter l'enfance et la jeunesse de votre engagement aux côtés de la Résistance française, aux côtés de Jean Moulin, dont vous avez été le secrétaire jusqu'au bout. Merci encore d'avoir choisi RFI pour ce témoignage en avant-première des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci beaucoup. Des rendez-vous qui se déroulent du 9 au 12 octobre, où je vous invite à venir nous retrouver pour un enregistrement public de la Marche du Monde, le vendredi 10 octobre à 16h45, au café Fluxus. Venez nombreux. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission réalisée par Cécile Pompeani sur RFI.fr et lire les livres de Daniel Cordier, alias Caracalla, aux éditions Folio, et son roman Les Feux de Saint-Elme, c'est aux éditions Gallimard. Daniel Cordier est également le co-auteur du téléfilm alias Caracalla, dont vous avez entendu des extraits dans cette édition. Exprimez-vous sur notre page Facebook, n'oubliez pas de podcaster, cette émission c'est la vôtre.